Rien ne se perd, rien ne se crée, tout s'écoute. Ce soir, l'atelier de création radiophonique propose Nébuleuse d'Andy, un essai radiophonique de Barbara Carlotti. Mais le dernier éclat d'héroïsme des décadences, dit Baudelaire. Dans cette époque trouble, politiquement malmenée, secouée de cataclysmes financiers et spéculatifs, annonçant la fin du capitalisme triomphant, entre luxe, ultramédiatisation, guerre, terrorisme, chômage et post-postmodernisme, se révèlent des personnages hauts en couleur dans diverses couches de la société. Animaux médiatiques, chanteurs décadents, cinéaste obscur et inspiré, plasticienne hype, couturier à foulard, philosophe punk, écrivain méconnu, poseur tendance, jeunes hommes chics, sont-ils dandys ? Vrais dandys ? Faux dandys ? Dandys minutes ? Les dandys ne sont pas forcément ceux que l'on croit, ni ceux que l'on croise, ni même ceux qui s'y croient.
La création.
Atelier de création radiophonique, Nébuleuse d'Andy, un essai radiophonique de Barbara Carlotti.
Les dandys sont des êtres qui ont cultivé l'idée du beau en soi.
Si je voyais quelqu'un d'une beauté absolue, ça m'ennuierait.
Je ne parle pas de la beauté grecque. La beauté absolue, ça n'existe pas.
La quête du sublime, oui.
Moi, pour que je trouve quelqu'un beau, il suffit parfois d'une toute petite chose.
Nous passerons nos vies dans des lieux sublimes, à lire en sirotant l'alcool des textes décadents, sur la nature de l'homme, sur ses plaisirs futiles, et nous rirons à pleines dents.
Non, pas du tout la réalité.
Je revendique la primauté de la beauté, et que le beau et le bon pour moi sont équivalents.
D'ailleurs, quand je parle de beauté, je ne parle pas de beauté immobile.
Devant la mer, des êtres androgynes danseront tous les soirs dans leurs robes d'argent et nous confondrons dans nos vagues pupilles les reflets de l'eau et le soleil fondu sur leur corps de serpent.
La quête du sublime, ouais.
La laideur, c'est une insulte pour les autres. On est responsable de son physique. Par exemple, le nez bouge. Et on vieillit selon la façon dont on pense, dont on parle. D'ailleurs, quand je parle de beauté, je ne parle pas de beauté immobile. Le mouvement, l'expression, la démarche, tout ça, ça compte, non ?
Nous passerons nos vies dans des maisons de pierre, dressées dans la nature, meublées d'objets anciens, de frugales banquets, devant le ciel clair, pour simple nourriture.
Les vieux livres, les vieux objets,
voilà,
en fait.
La vraie préciosité.
L'amour de l'objet, l'amour du l'objet, l'amour du beau et l'amour du détail.
À vivre de minutes, de fruits et de soleil, de poésie subtile, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, du vin coulant à flot, quelques habits de fête, juste ce qu'il faut, rien ou presque.
richesse, au fond, qu'un dandy.
Dandy léger, dans le sens de chevaux légers.
Now angels fly, because they take themselves lightly.
Aujourd'hui, je pense que le terme revêt une connotation assez méprisante, finalement, au sein de ce monde en décadence et en imposture totale. Je pense qu'aujourd'hui, qualifier quelqu'un de dandy est assez méprisant.
I am interested about what is to be a dandy today.
It's basically a sword, it's a shield, and it's a crown. And they're all pulled out of the dressing up box in the attic of the imagination. That is what dandy is about.
Non, c'est pas du tout l'identité. L'identité, c'est les, je sais pas, les gens qui ont un travail fixe, qui ont des horaires fixes, voilà, et qui ne partent pas, qui ne, n'ont pas envie de partir à l'aventure à n'importe quel moment de la vie.
Le retour des dandys est annoncé pour l'an 2000.
Samedi 15 novembre 2008, 13h20. Bonjour. Je réalise un atelier de création radiophonique pour France Culture, un genre d'émission d'une heure sur le dandysme. Et je voulais t'interviewer pour savoir qui sont les vrais dandys.
Bien évidemment, ne peut pas être dandy qui veut.
Mon postulat de départ, c'est la définition du dandysme par Baudelaire. Une définition romantique et héroïque du dandy, qui pour moi est la meilleure. Le dandysme est le dernier éclat d'héroïsme des décadences. C'est aussi une véritable aristocratie intellectuelle, une métaphysique.
Defining dandyism,
un art de vivre hédoniste et exigeant.
Is to define what it's not. And what dandyism is not, it's not fashion.
Donc, je me mets en quête des dandys contemporains.
It's not wealth.
Les vrais.
It's not learning.
Pas les poseurs médiatisés et souvent trop vulgaires pour en être.
It's not beauty.
Mais les vrais lions. Bref, je voulais savoir si tu voulais bien répondre à quelques questions. Quelle serait ton idée du dandysme aujourd'hui ? Qui pourraient être les vrais dandys aujourd'hui ? Est-ce que tu veux bien me consacrer une heure pour en parler ? Dis-moi, merci, Barbara.
Le mot est revenu. Il y a un peu plus de 10 ans, il y a eu une couverture de Technique Art qui a utilisé le mot dandy. Et c'est une couverture, je crois, avec Frédéric Becbédé et Ariel Wiesmann.
Bertrand Burgala, un matin chez lui.
Et à partir de là, ça a remplacé quasiment le « je veux dire » dans les années 80 dans le langage. Donc on a utilisé le mot dandy pour à peu près tout ce qui ne paraissait pas forcément dans la norme du moment, etc. Et il y a un écrivain, Patrice Bollon, qui a fait un livre qui s'appelle « Esprit d'époque ». Ce livre date d'il y a 5 ans. Et où il explique très bien comment aujourd'hui, en réalité, les comportements, y compris qui paraissent singuliers, sont prémâchés par la société. Et évidemment, dandy, c'est aussi une montre de chômage, comme il doit y avoir chez Maubousin une montre qui s'appelle Tycoon. Il paraît très clair que quiconque se revendiquerait d'un quelconque dandysme aujourd'hui sera tout sauf dandy. C'est-à-dire que le dandysme, il ne peut être qu'inconscient.
On est le 17 décembre 2008, les dandys sont partout. Sur le net, Dandy Freaks, un groupe de rock français. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Hôtel Dandy, au cœur de Rouen. Les Dandy Warrows, dandys, écran dandy. Dandy est un ovni joliment foutraque, où l'on ne comprend pas forcément ce que l'on fait, mais le résultat est tellement fou. Dandy Horse. Dandy. Dandy Mag, actualité de la mode féminine. Artie Dandy, élection d'objets singuliers. Dandy, le meilleur de l'homme. Dandy veut creuser des écarts avec le reste de la société. The Dandy Cosmique. À dandy.com.
Alors le dandysme au 21e siècle, mythe ou réalité ?
Réalité d'un mythe.
Réalité d'un mythe.
Un micro-trottoir dandy, passage des panoramas à Paris, avec Tristan Francoze, Jean-Pierre Petit, Benjamin Esdrafaud, Emmanuel Vulin, et Jérémy Régnier.
En tout cas, quand on prend le dandy de quartier, qui est le négatif, disons, c'est le dandy de quartier, essayer d'en adopter tous les codes.
Alors,
généralement.
Le dandy de quartier, c'est quoi si tu peux le définir ?
Là aussi, c'est pas vraiment définissable clairement, mais c'est juste. Ça se définit par négatif.
Le beau du quartier, c'est ça ?
Ouais, en l'occurrence.
Le petit crâneur qui passe dans la rue.
Un peu plus fin que crâneur, justement, mais qui se réapproprie une certaine forme de dandysme. J'ai bien dit forme et pas code, qui sont souvent des codes vestimentaires, qui sont des codes culturels. Mais en fait, c'est vraiment du flan, et c'est donc c'est le négatif du dandy, parce qu'il essaye de s'assimiler à une image, en fait, alors que le dandy crée sa propre image.
Non, ils peuvent avoir, pour séduire un public, des attitudes
soi-disant dandistiques. Mais ce n'est pas vrai que ce soit des dandys.
Ils jouent au dandisme, mais c'est pas ça.
Tout le monde se croit singulier. Je pense que on doit être à peu près à 1 milliard de branchés sur la planète, voire plus. C'est-à-dire des gens qui achètent des compilations d'un tempo, qui vont dans des hôtels design, qui consomment des choses un peu branchées et qui prennent les autres pour des idiots. Je pense qu'on est à plus d'un milliard, peut-être que je sous-estime. Le nombre de dandys sur ces 1 milliard, il y a bien, oui, il doit bien y avoir 100 millions de dandys.
C'est un dandy revendiqué, tu veux dire.
Oui, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, c'est Philippe Manœuvre qui m'avait raconté ça il y a quelques années. Il avait accompagné sa fille à un concert de Marilyn Manson au Zénith. Et c'était magnifique parce que le Zénith était rempli de sosies de Marilyn Manson qui se regardaient tous d'un œil torve parce qu'ils étaient effarés. Ils étaient tous dans leur lycée persuadés d'être les seuls à être comme ça. Évidemment, il y en avait 5000 qui se regardaient l'air mauvais en disant « mais toi aussi ». Et je trouve que ça résume bien la problématique.
Juliette Gréco, cette année, le Negresco. C'est un jeune dandy décadent qui aime les cocktails au rhum blanc.
Le dandy cherche à paraître autre, le snob à paraître parmi. Il ne s'en doute pas, le snob.
Il ne s'en doute pas.
Et il se croit dandy.
What matters is not what other people think about you, but what you think about yourself. Once you've decided that, you know who you are, you know what you're doing, and every moment that you're alone is spent dealing with your identity, getting it together.
Je trouve que ce qui est difficile aujourd'hui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est juste d'être à peu près, d'être honnête envers soi-même.
Ce matin, nous avons rendez-vous avec Monsieur Intel, dandy s'il en est, à l'hôtel Raphaël, un hôtel de luxe à Paris, près de l'Arc de Triomphe.
Monsieur Intel.
Un hôtel où descendait Serge Gainsbourg.
Monsieur Intel, bonjour. Bonjour.
Rendez-vous donc avec
où sommes-nous ?
Un dandy à l'hôtel Raphaël.
Dans les boiseries de l'hôtel Raphaël. Mon préféré. Dans cette ville.
Pourquoi ? Pourquoi
pour prendre ici un petit déjeuner. Bon, j'ai un menu
pourquoi l'hôtel
à soumettre pour le petit déjeuner.
Oui, je vous écoute. La coupe de champagne de M. Intel n'a pas été servie.
Non.
Oui, mais pourquoi l'hôtel Raphaël, M. Intel ?
Par Acardotti, l'hôtel Raphaël est peut-être, comme vous le savez, un hôtel mythique pour le thème qui nous anime.
Quel est votre menu, monsieur ?
Alors, mon petit déjeuner ?
Oui.
Foie de tortue verte truffée, langouste à la mexicaine, faisan de la Floride, iguane sauce caraïbe, gombos et choux palmistes, saumon du Rio Rouge, jambon d'ours canadien, roast beef des prairies du Minnesota,
anguille fumée,
tomate de
San Francisco,
parce que
et
là, les vins de
sur la fin de sa vie, les dernières années de sa vie, Gainsbourg, il passait 3 mois par an pour fuir les paparazzi et les petites cocottes qui s'entassaient devant sa porte la nuit.
Par exemple, en France, je crois qu'une des seules fois où le mot dandy a été utilisé, c'était dans les années 70 dans Best. C'était un article de Patrick Oedlin sur Serge Gainsbourg qui s'appelait Le Dandy. Et c'était très adapté parce qu'il avait ritualisé son personnage.
Et donc il venait ici, il avait
3 mois par an.
Ouais. C'est assez charmant.
Il a mangé à son goût.
Ananas Goya, du Japon, c'est vrai qu'on est assez coupé de
l'arbre à pain. Et moi j'y avais organisé un
soupe à la tortue, huître, frites, pâte d'ours truffée, langouste à la javanaise, ragoût de crabe de rivière au piment, cochon de lait entouré de bananes frites, hérissons au ravenzara, fruits. Bon appétit.
Skippy le kangourou, c'est le candidat de la dernière chance, mademoiselle Carlotti.
Vous voulez dire pour la gauche ?
Ah non, ni gauche ni droite, uppercut.
Skippy revient. Pour les élections en 2012, si toutefois il y en a.
Alors que mange le dandy au petit déjeuner ?
Ça dépend. Ça dépend. Là, je crois que je vais manger tout ce que j'ai annoncé, plus un peu de viande de bison.
Un peu de protéines, pas de mal.
Où avez-vous passé la nuit, monsieur Intel ?
Mon Dieu, je ne peux le dire à la radio.
Ah si, dites-le.
La radio d'État.
Dans le froid et la neige.
Non.
En partie.
Je vous sers un peu de ces choses magiques là qu'on trouve dans les récipients. On part.
Oui, mais pas sur mon jambon.
Ah.
Parce que vous, vous servez du pamplemousse sur la viande de grison.
Ah, mais j'adore. J'adore ce contraste entre l'animal vivant, donc le pamplemousse, et puis la descente de lit bien râpée, qu'est le bison.
Un peu de fromage.
De la pastèque à cette époque.
Très étonnant.
Elle vient de l'espace.
Elle vient de l'espace, oui.
Elle vient de Californie.
Elle vient de l'espace, oui.
Donne l'impression de s'être toujours fait une certaine idée de lui-même. Donne l'impression d'une très grande confiance en soi, mais basée sur quelque chose de fragile. Fragile et somptueux. On l'a abîmé. Il fait voir cet abîme. Exhibe sa détresse à froid, l'habille d'élégance.
Each man care the things he loves.
Et écartelé entre un modernisme effréné et une sorte de morale évangélique, il cherche un état de sainteté.
La 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 la.
Son goût pour les tombes, les cimetières de voitures, autant que pour le luxe, Cannes, Le Mans, l'or et les femmes. Ce qu'il aime dans le funèbre, c'est aussi la pompe. Préfère-t-il une Lamborghini, cette voiture aux allures de soucoupe volante, ou une carcasse de Lamborghini? Une Ava Gardner ou une carcasse d'Ava Gardner? Ça dépend des jours. Ou bien, ce qu'il aime dans Lamborghini ou dans Ava, c'est la carcasse qui y est promise. Il se recoiffe, met ou enlève sa veste ou son écharpe ainsi qu'on lance une fleur dans une tombe encore entrouverte.
Each man kill the things he loves. Each man kill the things he loves. La la la, la la la. Each man kill the things he loves. Each man kill the things he loves. La la la. Some kill when they are young, and some when they are old. Some strangle with the hands of lust, and some with hands of gold. The kindest use a knife because the dead so soon grow cold. Each man kill the things he loves. 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 La la la, la 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 la. Some love too little, some too long. Some sell and others buy. Some do the deed with many tears, and some without a sigh. For each man kill the things he loves, but each man doesn't die. Each man kill the things he loves. Each man kill the things he loves. La la la, la 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 la. Each man kill the things he loves. Each man kill the things he loves.
As I said, true dandyism, it's a spiritual condition, it's an intellectual position, and it's a way of you're taking up a position of ironic detachment from the world. This is kind of the essence of it.
Le nom dandy, c'est très difficile d'être dogmatique là-dessus. C'est un mot français, dandin, venant de se dandiner. Donc c'est un personnage un petit peu grotesque qui en rajoute dans sa manière, dans sa démarche, dans ses façons. Et il semblerait que le mot ait été adopté à Oxford, c'est probable, puisque de toute façon on a parlé très longtemps français à Oxford et qu'on l'ait transformé en dandy.
Après je vais me coucher pour prendre le train pour Londres demain. Oh, Londres, Londres.
Il y a Rummel. Et il y a Byron.
Deux lignes du dandysme apparaissent en même temps. C'est-à-dire ce puritanisme avec Brummel, qui va finir par justifier tous les passe-murailles, et puis cette espèce d'extravagance à la Byron, qui, me semble-t-il, est plus moderne.
Arrêtez-vous un instant pour profiter de la beauté des lieux, et surtout, levez les yeux vers les voûtes.
Westminster. Pour vous accueillir, vous allez entendre son doyen, le très révérend John Hall. Tout en l'écoutant, vous pouvez circuler et regarder autour de vous, ou vous asseoir sur l'une des chaises en bois.
I'm delighted to welcome you to Westminster Abbey. It's an extraordinary and wonderful thing.
On est dans le carré des poètes, dans la ville de Westminster. Derrière Shakespeare, derrière le monument de Shakespeare, des plaques au sol. La première, Lord Byron, 19 avril 1824, à l'âge de 36 ans, à Missolonghi en Grèce. But there is that within me which shall tire, torture and time and brief when I expire. Un vers de Lord Byron. À côté de lui, Dylan Thomas, D.H. Lawrence, Henry James. Et sa plaque est en marbre blanc, contrairement aux autres. Et les lettres sont dorées. Donc on peut piétiner Lord Byron. Il n'y a pas de statue de Byron, en fait. C'est plein de bustes. Il n'y a pas sa statue. Qui était pourtant un très bel homme, réputé pour sa beauté.
Seul dans une villa en Grèce, un homme apparut dans la pièce. Une longue écharpe de soie blanche coulait de son cou à ses hanches.
Cette cravate était une longue, une interminable écharpe de mousseline blanche.
Son corps ondulait sur la pierre, ses pieds nus sur le marbre clair, son beau visage au regard vert, son pied gauche un peu de travers. And he said, I am the rider of the wind, the steer of a storm, the hurricane I left behind is still with adding warm. He's the rider of the wind, the steer of a storm, the hurricane I left behind is still with adding warm.
On a dit et répété que Byron avait un pied beau. Il n'avait donc finalement que le pied déformé.
J'ai croisé le fantôme de Lord Byron flottant dans le corps d'un autre homme. Sa voix sonnait comme un grand orgue et je suis restée sous le charme. Il avait connu 1000 femmes qu'il avait toutes jetées en mer. Sa voix sonnait comme un grand orgue, comme il racontait ses horreurs. And he said, I am the rider of the wind, the steer of a storm, the hurricane I left behind is yet without warm. He's the rider of the wind, the steer of a storm, the hurricane I left behind is still with lightning warm. He's the rider, he's the rider, he's the rider, he's the rider.
Aimer, même dans le sens le moins élevé du mot, désirer, c'est toujours dépendre, être esclave de son désir.
The problem is, if you're in love with yourself, if you love other people, you're being unfaithful, aren't you?
Je vis avec le fantôme de Lord Byron qui m'aime comme une simple sœur. Il dit souvent, Shelley est mort, c'était mon ami et mon frère. J'ai navigué toutes les mers, quand vais-je rentrer en Angleterre? Mais il n'y a rien que je puisse faire, m'en aller ou bien me taire.
Le byronisme est une sorte de synonyme de la liberté d'esprit.
I am the rider of the wind, the steer of a storm, the hurricane I left behind.
Et on voudra essayer de le faire inhumer à Westminster Abbey, mais le doyen de la cathédrale lui refusera la sépulture, parce qu'il était considéré comme un être scandaleux et que donc toujours cette pudibonderie et ce côté moralisateur puritain excessif sévissait encore. Et alors donc il est décidé qu'il sera enterré dans la petite église du village proche de Newstead Abbey. Et à ce moment-là a lieu d'Érisio suprême, le défilé mortuaire de Byron. Et les aristocrates, ceux qui l'ont connu, ne veulent pas ne pas participer. Ils envoient tous leurs carrosses, mais vides.
It's important to know how to vacate the stage with the same panache that you entered it.
Attention, attention, tout le monde à l'écoute.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. La SNCF, l'équipe Corail Intercité et votre chef de bord vous souhaite la bienvenue dans notre train à destination de Caen. Il desservira les gares d'Évreux, Bernay et Lisieux. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite un agréable voyage.
Merci. Je signale donc à nos auditeurs actuellement à l'écoute ce que Barbara Carlotti vient de sortir de quelque part. Un objet comme on en voit dans Cosmos 99. Rappelez-vous. Oh,
c'est une nébuleuse.
C'est superbe.
Le mythe du dandy.
C'est le sujet d'une intrigue infinie. C'est l'histoire d'une étoile qui rejoint sa constellation grâce aux routes terrestres.
Plus précisément, le dandysme, qui a été quelque chose de bien au-delà des personnages qui ont représenté des dandys, étant entendu qu'il en va là comme de beaucoup de choses. Et par exemple, les signes astrologiques, où on n'est jamais un pur représentant de ce signe.
On l'a déjà dit plus haut en effet, mais on ne se lassera point de le répéter, ce qui fait le dandy, c'est l'indépendance. Autrement, il y aurait une législation du dandysme, et il n'y en a pas. Tout dandy est un oseur, mais un oseur qui a du tact, qui s'arrête tant, et qui trouve, entre l'originalité et l'excentricité, le fameux point d'intersection de Pascal. Voilà pourquoi Brummel ne put se plier aux contraintes de la règle militaire, qui est un uniforme aussi.
I think to be a dandy means that you will...
Jusqu'où on peut aller trop loin.
Bon, j'ai une chronique dans Libération qui s'appelle White Flash, et pendant peut-être un an, toutes les semaines, je rabâchais la même histoire. Nous sommes contre le verre, contre l'écologie, oui, nous sommes pour la ville, pour le bitume, pour l'asphalte, pour le bruit de la ville, c'est-à-dire le rock'n'roll, pour une musique violente, contre les petits oiseaux, contre les Pink Floyd...
Etc, etc. Alain Pacadis, un jeune homme chic.
Oui, naturellement, il était tout à fait nihiliste. Il était tout à fait nihiliste, mais un nihilisme surmonté.
Est-ce que vous choisissez vos vêtements avec soin? Parce que là, je vous vois habillé, vous n'êtes pas vraiment...
Oui.
Excusez-moi.
Non, mais non, justement, c'est un certain... Oui, oui, exactement. Non, mais c'est très voulu, c'est un laisser-aller, c'est volontaire. C'est parce que, bon, j'ai passé quand même cette nuit chez Castel, des choses comme ça, et donc, moi, j'ai mieux pas être habillé comme les autres pour aller là-bas. Bon, les gens sont tous très, très, très chics. Donc, moi, j'aime mieux y aller avec un jean un peu pas très net et une chemise un peu sale. J'aime mieux arriver comme ça parce que peu de gens peuvent se le permettre. N'importe qui d'autre viendrait habillé comme moi chez Castel, il ne rentrerait pas.
Chacun doit aller au bout de soi. Les gens qui ne vont pas au bout d'eux-mêmes sont comme les Versaillais, qu'encerclent les gens qui vont au bout d'eux-mêmes. Les gens qui vont au bout d'eux-mêmes sont forcément encerclés, ils sont forcément agressifs. Par exemple ça, c'est parfait. On ne peut pas faire mieux. C'est la peinture,
hein?
La pensée, entourée, aïe, par des lames de rasoir, je sais. C'est-à-dire l'unité, l'unique, qui base sa cause sur rien, et qui est entouré par sa propre pensée comme par des lames de rasoir. Impossible à tenir. La preuve.
C'est fait exprès. Ça ne te fait pas mal?
Je ne fréquente que les gens qui sont dangereux. Tu me fais beaucoup penser à l'élégance des gens de la fin du XVIIIe siècle, qui étaient extrêmement soucieux de leur apparence, de l'effet qu'ils produisaient sur les autres. Cet effet, c'était déjà une création, c'était déjà le commencement de la Révolution. La distance établie par l'élégance, par rapport aux gens non élégants, est capitale, parce qu'elle établit une sorte de vide autour de la personne.
Le dandy, si on essayait de tracer un portrait psychologique de lui, ce serait un enfant qui serait tombé des genoux de son père et que le père n'aurait jamais ramassé. Du coup, il n'aurait pas de référent. Il serait obligé de se créer ses référents et un monde à part entière par lequel et pour lequel il vit. Il serait extrêmement isolé, ce qui rejoint l'idée de tour ou d'isolement ultime. Il aurait ce sentiment de toute puissance, puisqu'il n'aurait pas au-dessus de lui d'instance Et donc, il serait extrêmement libre à cause de ça, mais il serait toujours, et de façon ultime, malheureux.
Ce serait comme malheureux de créer une république, ou plutôt une tyrannie, dont on serait à la fois le dictateur et le seul habitant.
Exactement, c'est ça.
C'est ce vide autour de la personne que tu crées avec les objets aussi d'ailleurs. Mais en fin de compte, tu pourrais très bien t'en passer de tes objets. Tu es toi-même la boîte de peinture avec les lames de rasoir autour, comme Saint-Just l'était. Les lames de rasoir, c'est la parole. Ça peut être le silence. Ça peut être aussi l'élégance.
Un bonhomme pourrait vivre toute sa vie dans un sac en toile de jute s'il écrivait...
Vous voulez dire que Diogène était un dandy dans son tonneau?
Mais je pense que les dandys sont jamais très éloignés du tonneau, d'une part. Ce qui n'est pas en soi une preuve, je vous l'accorde, mais une piste.
Et... Il faut quand même une forme d'élégance vestimentaire.
Je ne crois pas.
Et de provocation.
Même si je... Je suis connu pour être...
Vous êtes toujours très bien habillé.
On le dit, l'homme le mieux habillé de Paris, oui, ça me fait sourire. Mais je crois... que c'est pas nécessaire, non. Vraiment c'est pas nécessaire.
Et la provocation, l'insolence.
C'est pas nécessaire, mais à tel point ça colle quand on est dans le travail du beau ou de la forme, etc. Évidemment qu'on a envie de par quelques détails que ce soit, de se rappeler à cette évidence qu'on est en train de fabriquer quelque chose de cet ordre-là et que sur soi, comme dans ce qu'on dit, comme dans ce qu'on fait, comme dans nos rapports avec les femmes, comme dans nos rapports avec les hommes, pour ceux qui les dandies, mais les hommes, en tout cas avec les autres êtres humains, avec les animaux, dans tout. Donc du coup, forcément, avec la tenue, avec l'appropriation de l'espace, et du corps vêtu, enfin, et du corps gestualisé, tout ça. Donc oui, je pense que globalement, mais il peut y avoir eu des réfractaires, justement, s'opposant radicalement aux autres dandys par provocation à l'intérieur même de la nébuleuse. Pourquoi pas? C'est envisageable.
Des dandys punk, par exemple?
Alors, des dandys punk qui s'habilleraient, par exemple, chez Kiabi, hein, on peut citer des marques, qui auraient l'outrecuidance même de ne jamais rien écrire, d'aller travailler à la banque, hein, comme petits esclaves, toute leur vie durant, attendant une retraite bien méritée qu'ils dépenseront en petits pantalons, pantacours, les appelle-t-on l'été, je ne sais comment.
Non, c'est pas des dandys, c'est pas possible.
C'est possible, c'est possible qu'il en ait été un parmi ceux-là. Il faut le trouver, bien sûr, et c'est le jeu aujourd'hui que nous vous proposons sur France Culture.
Dandyism has got very little to do with clothes. Very little to do with clothes at all.
Frédéric Becbédé, à l'hôtel rue des Beaux-Arts, où est mort Oscar Wilde.
Sur le plan vestimentaire, pour moi, quelqu'un qui s'habille d'une manière originale est un clown. Et donc, on ne peut plus s'habiller de manière très différente. Et c'est plus compliqué que ça. Il faut aussi être extrêmement discret dans un jeu avec les codes, plus ou moins à côté, mais pas trop à côté. Sinon, ça veut dire qu'on veut se faire remarquer et ça devient du dernier plouc.
Si je vous dis mode.
La mode, c'est ce qui se démode.
On s'habille tous comme on peut. Moi, je m'habille pour me sentir le mieux possible dans ma peau. Et si pour ça, je dois mettre un survêtement taquini et des tongs filats, j'hésiterai pas du tout à l'instant. Je pense que c'est... Bon, les gens qui me parlent le plus de mon apparence vestimentaire, par exemple, c'est ceux que ça préoccupe le plus. Moi, je passe assez peu de temps là-dessus.
D'accord.
Et j'ai un budget vestimentaire, à mon avis, qui ne doit pas être très éloigné de celui d'un musicien de Noir Désir, par exemple. Je garde toujours les mêmes fringues, j'ai des tricots de corps que j'avais déjà en terminale.
Dès le moment où cet apparent deviendrait un modèle figé, un modèle qui serait appelé à être copié, le dandy se nie lui-même.
Mais qu'est-ce au fond qu'un dandy? Est-ce seulement un homme qui soigne particulièrement sa mise pour exercer la royauté de la mode? Non. Le personnage, purement factice, est plus complexe. Il s'efforce à la frivolité majestueuse. Il aime mieux étonner que plaire.
Dans ma veste de soie rose, je déambule morose, le crépuscule est grandiose. Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. Dandy, un peu maudit, un peu vieilli, dans ce luxe qui s'effondre, Te souviens-tu quand je chantais dans les caves de Londres, un peu noyé dans la fumée, ce rock sophistiqué? Toutes les nuits, tu restais là. Dandy, un peu maudit, un peu vieilli. Mes musiciens sont ridés. Sur ce clavier qui s'est jauni, j'essaie de me rappeler, encore une fois, les accords de ce rock sophistiqué qui étonnait même les Anglais.
Laurent Talon, un acteur brillant et un tantinet dandy des films de Serge Bozon, que j'interrogeais un soir au sujet du dandysme, me cite le nom de Louis-Philippe à propos de musique dandy, mais aussi comme personnage hors norme, chanteur, musicien, critique rock et commentateur sportif. Et comme le hasard fait bien les choses, je le rencontre quelques temps plus tard à l'anniversaire de Mishka Assayas, en compagnie de Bertrand Burgala. Je lui parle de mon projet et il me propose immédiatement de venir lui rendre visite à Londres, où il réside.
On va trouver Philippe Auclès, alias Louis-Philippe, qui nous reçoit dans son club, qui est un club, visiblement un club privé comme ça, enfin seuls les Anglais, puisqu'en France, nous n'avons pas ce genre de club. En Angleterre, c'est pour lire, boire du bon whisky et converser avec des hommes d'une certaine classe. J'imagine, enfin, nous allons découvrir ça. Nous sommes dans un taxi anglais, londonien. Tel Sherlock Holmes, nous errons depuis ce matin dans Londres à la recherche de Dandy.
Green Park. Donc, si tu veux, le club a été créé juste après la Seconde Guerre mondiale pour venir en aide aux soldats du Commonwealth. Moi, j'étais venu ici parce que j'avais été invité au départ par un type qui s'occupait du Royal Philharmonic Orchestra, qui était membre, et qui était l'assistant de Sir Thomas Beecham, le chef d'orchestre. Et j'étais venu l'interviewer ici et j'avais trouvé l'endroit absolument génial. En fait, 5 ou 6 ans plus tard, j'ai eu la possibilité, par une personne qui était membre ici, de pouvoir mettre ma candidature. Et Bertrand m'a demandé d'ailleurs, il veut devenir membre du club maintenant.
Bertrand Burgala ?
Ah oui, oui, absolument.
Pourquoi il veut devenir membre du club ?
Mais parce que c'est un endroit qui ne change pas. C'est la chose la plus précieuse, ces endroits qui ne changent pas.
On porte toujours des costumes ?
Ouais, j'essaye, ouais. Je me barre. En fait, c'est une copie absolument exacte d'un costume qui avait été fait par Savoy Tailors Guild en 1947. Je suis tombé sur un tailleur de Hong Kong qui vient régulièrement à Londres et qui prend vos mesures, qui fait faire les costumes à Hong Kong et qui vous les expédie. Et donc, quand j'ai été le voir, je suis arrivé avec mon costume. Je lui ai dit, je voudrais vraiment une copie de cette coupe. J'adore cette coupe. Donc, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale, ça veut dire que c'est un petit peu un pied de nez qu'on fait à l'austérité. C'est-à-dire que ce n'est pas un zoot suit. C'est pas un costume de Zazou, mais c'est pas loin. Mais à côté de ça, c'est du cachemire. Et c'est ce qu'on appelle Charlie's Chester Shoot. C'est un pied de poule. Avec le gilet, bien évidemment. La petite poche pour mon stylo plume. C'est incroyablement confortable. Merveilleusement chaud pour cette période de l'année. Et c'est ce genre de vêtement dans lequel je me sens le plus à l'aise.
C'est une arme. Oui. C'est une arme, l'élégance. C'est une arme de distinction, de différenciation, d'exclusion sociale.
Ouvrez, Maël. 1778-1840. À quel âge il est mort, 1778-1840?
62 ans.
Ah, c'est bon. To be... Vas-y, lis ça.
To be truly elegant, one shouldn't be noticed. Pour être vraiment élégant, on ne devrait pas se faire remarquer. George Beau Brummel.
Il a une statue à sa mort, quoi. C'est bien plus tard. Alors, il a un beau chapeau haute forme avec une canne et un beau nœud. Comment ça s'appelle, ces nœuds là ?
C'est une cravate, hein. C'est la vraie cravate nouée. Sur laquelle il disait passer jusqu'à 5 heures par jour, si je ne m'abuse, ouais. Juste comme ça.
J'imagine, oui. Une paire de gants où chaque doigt est fait.
Oui, j'imagine.
C'est quand même génial.
Un rêve.
Le vêtement inimitable, ou les gants inimitables. Vous savez que
que Brummel, pour n'être pas imité, parce que ça c'est la hantise du dandy, c'est d'être imité. Sitôt qu'on l'imite, il se change, il se renouvelle. Brummel faisait confectionner ses gants par des artistes ou des artisans différents, chacun se chargeant d'un doigt, de sorte qu'il était inimitable.
Il est plutôt beau, assez féminin en fait, enfin les traits du visage, mais c'est pas vrai, il n'était pas comme ça. C'est pas vrai.
Parfaitement rasé, ce qui est vrai, alors que c'était inhabituel à l'époque.
Ah oui ?
Où les gens se rasaient souvent un jour sur deux ou un jour sur trois, il était le premier à se raser tous les jours, à prendre un bain tous les jours et à se laver les dents au moins deux fois par jour. Le premier.
Ouais.
Celui qui a lancé la mode, entre guillemets.
Il était plus coquet qu'une femme, en fait, et il s'enorgueillissait beaucoup de ça.
Un beau, c'est aussi un crève-cœur, quelqu'un qui se fait aimer, quelqu'un qui est un petit peu volage. Donc c'est pas seulement la beauté physique. Non, il est pas si moche que ça.
Non, il est très beau. Moi, je le trouve très beau comme ça, mais après, c'est une femme qui l'a sculpté en 2002, donc... Elle ne l'a jamais vu, à vrai dire. Et les gravures qu'il représente. Je me demande si j'ai pas... Tiens, d'ailleurs, un genre de dessin.
Le voilà.
Et là, il a l'air un peu plus moche. Non, moi, je dirais que c'est le bas du visage, tu vois.
Le bas du visage, avec les lèvres.
Qui est plus avancé.
Oui.
Moins distingué. Là, il est très distingué. Il a des traits très fins.
Pas de poudre et pas de parfum.
Contrairement aux aristos de l'époque.
Oui, qui portaient la perruque. Il est l'un des premiers à ne pas porter perruque, hein.
On embrasse le beau Brummel.
Ben on va embrasser le beau Brummel.
Et on va jusqu'à Sceaux voir un vrai nouveau dandy. Moi, j'embrasse Brummel sur la bouche. Il n'a jamais eu aucune femme. Il semble qu'il était chaste. Il n'a fait que s'occuper de lui. Et de sa toilette. Et de ses discours. Pas du...
Comme Ravel. Qui n'a jamais eu amant ou amante. Qui, de temps à autre, descendait sur les boulevards pour aller voir les femmes qui fument. Oui, oui.
Juste pour les regarder.
Non, pas nécessairement.
Mais t'es pas si chaste. Je vous dis sexualité du dandy.
Exposé.
Joker.
The point of dandyism is to bypass the body.
Mais Byron était vraiment bisexuel, ou comme on dit, ambidextre. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Mais Yves Adrien, l'un de leurs amis, est complètement hétérosexuel. Dandy léger, dans le sens de chevaux légers. Il fait l'amour avec des filles dans des escaliers. Il fait des choses incroyables. Très pervers, très très pervers. C'est pas non plus très sain, mais bon.
Ce qui caractérise le dandysme, c'est finalement une polyvalence totale au niveau sexuel.
Prince of players, born of none, born still rains on the heart of the sun. Gypsy explorer of a new Jersey heights, exalted companion of T-Rex nights.
This is radio, isn't it?
Sébastien Orsley présentant son livre Dandy in the Underworld dans son appartement à Soho. Yes.
Oh, I didn't need to dress at all. It makes you sound better, doesn't it?
Yes, I think it sounds better if you are well-dressed, no?
Well, there's no point talking to me about culture. I hate culture.
No, it's not about culture. In fact, I am interested about what is to be a dandy today. And I think there is not so many dandies, so I'm looking for dandies, real dandies.
It's very rare. True dandyism is very, very rare.
'Cause he's a dandy in the underworld.
Well, dandyism is basically a form of self-worship which dispenses with the need to find happiness from others, especially women. Sorry about that. And it's a way of taking up a position of ironic detachment and living it out in scrupulous detail. It's a kind of philosophy of despair.
At an old 18, exiled he was to the deserted kingdom. Now we forever
cynicism, but it's a kind of romantic nihilism. To live is to be defeated. And dandyism has got very little to do with clothes. The clothes are merely an outer manifestation of an inner philosophy, and you can only judge the style by the content, and you can only reach the content through the style.
On peut pas dire, dis-moi comment tu t'habilles, et je te dirai si tu es dandy. On ne peut pas dire, dis-moi comment tu parles, et je dirai comme tu es dandy. C'est pas possible. Le dandysme, c'est la convergence d'un certain nombre de signes dans des épiphanies. La convergence d'un certain nombre de signes dans des épiphanies.
Life is absurd, then our response to life should be to lose ourselves in an orgy of absurdity. So in many ways, the dandy is ridiculed and thrown aside as being preposterous, vulgar, absurd. But in many ways, the dandy is, in my book, the dandy is the realist. He is actually mirroring life. He is showing people. There's a very fine line. He's half, you know, he's half clown, he's half priest. In many ways, adornment is never anything except a reflection of the soul.
Je suis dandy colorature et parce que je suis malheureux en amour, peut-être amoureux du malheur, que je n'ai d'autre fin que l'oisiveté, je veux te donner une éducation. Do you think you're a flower to be looked at? Je lui fais ma réflexion. Le dandysme, ce soleil couchant, c'est assez de lumière pour un enfant pierre qui roule aveuglément vers la mort.
You can't be a dandy unless you're English. I'm sorry.
Avec quand Philippe Auclair en Angleterre?
Barbara Carlotti, je suis arrivé très exactement le 27 décembre 1986. Je suis arrivé ici parce que j'ai été appelé par quelqu'un qui s'appelle Michael Way, qui à l'époque était le directeur artistique d'une maison de disques qui s'appelait Air Records.
Et vous y êtes resté. Qu'est-ce qui vous plaisait?
La musique, le fait qu'on m'accepte sur une maison de disques anglaise alors que les maisons de disques françaises me fermaient la porte au nez, j'étais ravi. La littérature, la poésie, les fringues, le fait d'avoir les costumes faits sur mesure avec un motif qui soit purement anglais. Les filles, assez proche de ce qu'on fait à Savile Row juste à côté. Le climat, j'étais ravi également. L'architecture, la courtoisie, devenir membre d'un club, etc. Le rythme de vie, le fait de faire confectionner mes cigarettes par Denis juste à côté, j'étais ravi. La place laissée à l'individu et le fait que on se retourne à peine sur les gens qui étaient habillés différemment, qui parlaient différemment.
Countries like England, we're guilt-ridden here in England. We have all this tension, we have this repression, we have this guilt. And countries that are steeped in the traditions of the past, they erupt in caprice. And this is the essence of dandyism. And also, of course, as a race, we're famous for our wit. We're not famous for many other things. Wit has truth in it. It's very different to a joke. I think Aristotle defined it as educated insolence.
C'est un dosage exquis de flegme, de courtoisie et d'humour.
And I think it's very much the weapon of the dandy, but rather than using it in the way that the French were using it to elevate themselves, in the way that Brummel perhaps was, I don't know, because there's no instance of it, but he was a chronic social climber, wasn't he? Wit is, for the English, it's a way of suspending some of their most controversial thoughts. I think great wit is very, very rare. And yes, Quentin Crisp was one of the greatest. And I think the essence of dandyism, it's half philosophy and it's half humour. And so if you're going to be a great wit, you've got to draw on both those strains, I think.
Il s'exerce à l'impertinence polie, voire à l'insolence compassée, au sarcasme à froid, à l'ironie glacée et continue, aux manières froides et languissantes.
Où sommes-nous ?
Nous sommes dans ces hauts lieux de sport équestre de Deauville, le Poney Club. L'école française d'équitation, l'engagement de qualité du Poney Club de France.
Bonjour.
Ah non, vous vouliez des renseignements ?
Peut-être, non, nous voudrions acheter un poney, est-ce que c'est possible ?
Acheter un poney ?
Oui.
Ça serait possible, oui.
Oui ?
Ça dépend pour quoi ?
Pour quoi faire ?
Pour vous
ou... pour, oui, pour faire un ami en somme, enfin, lier des liens. Pour savoir les prix.
Le monsieur voudrait acheter un poney, donc vous pouvez le voir.
Apparemment, ils n'ont plus de poney à vendre.
Rentrez, monsieur, rentrez.
Bien sûr.
Je te suis.
C'est le responsable du poney.
Bonjour.
C'est lui, monsieur Poney.
Bonsoir, monsieur.
Vous vendez des poneys ?
Non, je ne vends pas de poney.
Ah.
On a été...
C'est lui le responsable ?
Non, non, c'est pour acheter un poney pour faire quoi ? C'est un rêve d'enfance. Je m'étais dit que comme là, je m'apprêtais à aller... C'est pour mettre où, quel type de poney, un petit, un grand, un moyen, après ça dépend beaucoup de choses, quoi. Ah bah après, c'est, oui, c'est au coup de cœur, quoi. Il faudrait voir les poneys que vous avez, et puis un petit, un grand, un moyen. Qu'est-ce que vous en pensez, Barbara ?
Un poney, c'est petit, non ?
Il y a des doubles poneys qui sont plus grands, oui. Il y a des triples poneys peut-être, non ?
Un poney
non,
Shetland.
Non, ça n'existe pas. Un Shetland, ce serait bien.
Ouais. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les poneys Shetland.
On trouve ça peut-être dans la région
ou... Ouais, mais là, tout de suite comme ça, c'est pas forcément évident, quoi.
Non, mais on est à l'hôtel Normandie, on peut peut-être...
Bah, donnez vos coordonnées, vous demandez à M. Feuilly, je sais pas si M. Feuilly est concierge, là. Et là,
d'accord.
Vous lui dites de m'appeler dans la police si vous voulez vraiment un poney.
D'accord.
D'accord, très bien.
Voilà.
Après, vous êtes monsieur.
Ouais.
Si c'est l'après-midi, voilà. On a le temps d'aller voir quelques poneys, ça me ferait très plaisir.
D'accord.
Merci.
Non,
urgent.
C'est pas urgent.
Ah, bah, je vous en prie.
Oh, bah.
Je vais pas rester indéfiniment sur cette planète.
Ouais.
Barbara. Ah, à tantôt, monsieur.
Au revoir.
Ça serait formidable d'acheter un poney. Il faut vite aller faire quelques gains au casino d'abord. Et puis on rentre en poney.
Mais oui.
Imaginez.
Combien de temps tu penses qu'on peut mettre en poney ?
Non mais le poney on le met dans le train.
Ah bien sûr, suis-je bête.
Le poney on le met dans le train, il y avait personne. Il n'y a même pas eu de contrôleur. Puis nous on lui paye un ticket au poney, on l'habille. On passe chez Hermès, on lui met un petit costard.
Dis donc, il était chic le mec du Poney Club.
Pas mal.
Hein ?
Bel homme. En tout cas, quand on est parti, se frottait les pognes. Hein. C'est nous sur la famille. On allait plutôt être du type lucrative. On va aller nous chercher un poney derrière les fagots. Un vieux machin dont il veut plus.
Un vieux Shetland.
Ouais. Un vieux pull. C'est utilisé en poney.
The freedom of a person is in direct relationship to the volume of their laughter. This is why wit and humour is so important, because the funniest people are always the freest people. This is the frightening half of the programme.
Musique, c'est un mot qui a été assez peu employé. Une chanson des Kinks qui s'appelle Dandy, très, très ironique.
Dandy, Dandy, where you gonna go now? Where you gonna run to? All your little life, you're chasing all the girls. They can't resist your smile. Oh, oh, they long for Dandy, Dandy.
shaking out the ladies, tickling the fancy, pouring out your charm to meet your own demands and turn it off at will. Oh, the long for dandy, dandy, knocking on the back door, climbing through the window. A bee's gone away, and while the cat's away, the mice are gonna play. Oh, you low down dandy, 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 dandy. You know you're moving much too fast, and dandy, you know you can't escape the past of brandy and see the people settle down. And when you're old and gray, you will remember what they said, that two girls are too many, trees are crawling for your dad. Oh, dandy, dandy, when you gonna give up? Are you feeling old now? You always will be free, you need no sympathy. A bachelor, you'll stay.
Le dandysme se définit dans la mesure où on le voit à l'œuvre, dans la mesure où il se confronte à certains problèmes vitaux, ceux du travail par exemple, ceux de l'amour.
Celui du travail.
Celui de la révolte.
Refuser le travail, puisque on ne travaille pas la nuit, on s'amuse.
Dans l'imagerie du dandy, il est censé pas travailler, mais généralement c'est faux. Il est un énorme travailleur, il travaille tout le temps.
À quoi travaille-t-il ?
Il travaille à réinventer, à inventer ses propres codes, probablement.
Non, pas du tout, je dis, ce sont des parasites brillants, ils font très bien au bout d'un dîner, mais je ne vois pas en quoi ils servent la société, si ce n'est les fabricants de vêtements.
Ah, mais écoutez, alors là, notre point de vue est différent.
Aujourd'hui, justement, il y a un plaisir, et je pense qu'il pouvait exister au 19e siècle aussi, mais qui a existé à d'autres époques, de dire, ben moi j'ai moins d'argent que vous, j'ai peut-être plus de goût que vous. Et ça, ça me paraît déjà plus intéressant.
Il a des revanches à prendre, il a tout le temps des revanches à prendre. C'est un homme qui prend des revanches toute sa vie.
Le dandy est à la fois dans l'histoire et en dehors de l'histoire. Il est aussi dans l'éternité. De même qu'il est dans le siècle et contre le siècle.
Une époque de merde.
Est-ce que vous êtes nostalgique ? Est-ce que le dandy est nostalgique ?
J'aurais beaucoup aimé vivre à d'autres époques que celle-ci, mais en même temps, cette absence de charme, elle s'en confère un. Peut-on dire ?
Docteur, comment avez-vous trouvé un tel mécanisme ?
C'est avec Jean-Claude Duss, je crois, qu'on faisait ce conseil. Quand on arrive au fond, eh bien, on ne peut plus que rebondir.
Est-ce que vous pensez que...
Que ça va rebondir ? Non. Je suis pire que Jean-Claude Duss.
Qui est Jean-Claude Duss ?
Jean-Claude Duss, c'est le petit monsieur qu'interprète Michel Blanc dans Les Bronzés.
Oh.
Une sorte de dandy à l'envers.
Un anti-dandy.
Un anti-dandy, absolument. Un dindon, quoi.
En ce moment, je trouve, mais vraiment que depuis septembre 2008, depuis le crack de l'affaire des subprimes et tout ça, il y a donc 1000 milliards de dollars qui sont partis en fumée. Hein. Et tous ces gens qui nous expliquaient comment doit fonctionner l'économie et tous les banquiers du monde et tous les diplômés de Harvard Business School et de HEC, tous ces gens-là sont invalidés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, c'est plus important que ça n'en a l'air parce que c'est pas qu'une crise économique, c'est que tout ce qu'on vous a dit depuis 50 ans, c'était des conneries. C'est génial un moment de vivre un moment pareil où on s'aperçoit le 11 septembre 2001 que vraiment des choses très grandes peuvent disparaître en peu de temps. Et puis en septembre 2008, on s'aperçoit que tous les repères, toutes les structures, les trucs qu'on vous enseigne à l'école, tout ça est faux et absurde. C'est intéressant.
Ouais.
Donc je me dis peut-être que une des conséquences de tout ça, ce sera d'aller s'asseoir sur un banc ou de voir ses amis et boire un verre avec eux. Enfin, abandonner toute crédulité face à l'énorme escroquerie du monde actuel.
Une époque de merde.
Mais bon, peut-être c'est...
C'est ça l'ultime.
C'est utopique. C'est utopique, oui.
The idea of building monuments to your transience, museums, money, statues, That is absurd, and it's a lie about the nature of reality. So in that level, I'm a non-believer, do you see? So, you know, you have to define whether you're a believer or you're a non-believer, and I'm a non-believer.
Oui, naturellement, il était tout à fait nihiliste. Il était tout à fait nihiliste, mais un nihilisme surmonté.
And I mean, that could be a camouflage for my insecurity and for my failure. I do understand that, you know. It's very easy to mock things when they've given you up. But that said, ultimately, I'm not actually a believer. The true warrior leaves no traces, good nor bad. That is true. That is the true warrior position. And in many ways, I think the dandy is the warrior.
Un saint ou un héros pour soi-même.
Je vous dis Brumel.
Beau.
No.
Justement, une marque de gants au printemps, je crois.
Yes.
Oscar Wilde.
No.
Arthur Cravant.
Yes.
Il y en a beaucoup qui sont morts, il y en a comme moi qui prennent la relève.
No.
Ivan Cavan.
No.
Frankenstein d'Andy.
No.
Lord Byron.
Yes.
Don Juan. Gabriel Maisonneuve.
No.
Je vous dis Dada d'Andy.
Richard Hulsenbeck.
Yes.
Raymond Roussel.
No.
Michel Léris.
Ravel.
Yes.
Ravel d'Andy.
No.
Sacha Guitry, Cocteau, d'Andy.
No.
Il fait passer les gens à travers le miroir à la faveur d'un trucage à la prise de vue, ouais.
Et pourquoi ce serait dandy, ça?
Bah, à cause du miroir, et puis l'idée de passer à travers, quand même.
Yes.
C'est Baudelaire qui dit que le dandy doit vivre et dormir en se regardant dans le miroir.
Yes.
Ce qui est au cœur de Warhol, c'est en fait la fabrication de sa propre image.
Yes.
Andy Warhol.
Yes.
Qui, le premier, s'est décoloré les cheveux en blond, presque blanc. Porter des lunettes noires.
Yes.
Like to take a cement fix, be a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them are there really young. Put the people in my brain, two new plans to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show.
Andy Warhol.
Le dandy, en général, est plutôt intellectuel.
Warhol embracing the wig, he's embracing everything that made him kind of repulsive in a way. That's a very clever sign of dandyism.
Andy walking, Andy talk, Andy take a little snow. Tie him up when he's fast asleep. Send him on a pleasant cruise.
Le dandy a un aspect solitaire.
When he wakes up on the sea, be sure to think of me and you. You think about paint and you think about glue. What a jolly boring thing to do. Andy Warhol looks a scream. Screen can tell them apart at all. Andy Warhol looks a screen hanging on my wall. Andy Warhol silver screen can tell them apart at all.
It's Andy Warhol. Well, there you know, see, we're contradicting ourselves now because he was American, but no, I think Andy Warhol was. He was well, not really American. That's right. He was Czechoslovakian, wasn't he? You know, he was a dandy. Yes. Apart from all that awful art. But his great work was A to B and Back Again. That's for great dandy. Brilliant. That which cannot be wholly concealed should be deliberately displayed. He was drawing attention to the fact that he had no hair. That is that's a dandy thing to do. What is not a dandy thing to do is like Elton John getting hair transplants and all that. That's ridiculous. You must have an existential attitude to it. An existentialist is someone, if you threw a petrol bomb at an existentialist, he would drink it. He goes with the tide, but he goes faster. And so, of course, Warhol embracing the wig, he's embracing everything that made him kind of repulsive in a way. That's a very clever sign of dandyism. The problem with Warhol is that he eventually became greedy and believed in all that. The problem with that is that you want to be as radical as reality itself, and there's nothing remotely radical about making objects and then selling them for more than they're worth. That is capitalist. which in many ways, I mean, when I went off and got crucified, that to me was a Dada work of art. But I failed when I came back and made images and tried to sell them, and that's to me, that was a falling away. That wasn't really. And Warhol talked about in what he believed really was that he wanted you to have the courage of his blank walls. He said in the book, he said that he didn't, he believed his wall, your wall would look better blank than it would with one of his pictures on it, which is brilliant. But he didn't live like that. I mean, he was really, really, you know, selling and collecting, and that's not Dan, that's not Dan.
Il y a sa fameuse tournée dans tous les États-Unis où il va donner des conférences pour expliquer son travail. Et les étudiants sont toujours assez surpris de voir que le Warhol, ils ont en face d'eux, est un type qui ne répond à aucune question jusqu'au jour où un étudiant un peu plus perspicace que les autres va découvrir que le type qu'on leur envoie partout comme Warhol, c'est pas Warhol.
Nous parviendrons bien à faire quelque chose de ce félin snob, railleur et cafardeux.
Pour être dandy aujourd'hui, il faudrait être anglais comme Beau Brummel et Canton Crisp, laid et écrivain comme Barbey d'Aurevilly et Serge Gainsbourg, lucide et désespéré comme Charles Baudelaire, superficiel et mondain comme Oscar Wilde ou Andy Warhol, androgyne comme David Bowie ou Patti Smith, hédoniste comme Michel Onfray, punk et esthète comme Alain Pacadis, drôle et bien habillé comme Monsieur Intel, érudit et plein d'esprit de dérision comme Sébastien Hersley. Il faudrait surtout ne pas dire qu'on l'est, dandy, comme Bertrand Burgala et Serge Boson. Il faudrait être solitaire et singulier, bisexuel, hors mode, hors norme, remarquable et inconnu, libre et simplement soi-même.
So he felt to be in being a dandy is not a real dandy.
No, I wish. No one is anymore, and neither am I.
Est-ce que le dandy ne sera pas juste de passage? On devient dandy un temps donné et on ne l'est plus à partir d'un autre temps décidé.
Un peu comme les footballeurs?
Exactement, 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 comme les grands sportifs.
Disparition, apparition.
J'ai du mal à voir en quoi ça pourrait être qu'un passage aujourd'hui dans une société individualiste, qu'on pourrait devenir dandy un moment et puis l'être à un autre. Ce qui est... Il y a un tel mysticisme autour de cette fin du dandy, quelque chose qui ramène ou au nihilisme ou au suicide. J'ai du mal à voir comment ça peut être qu'une étape.
If your life is a work of art, the suicide is the frame, but you must commit suicide out of hope, joy. Your song has been sung, and then it's time to leave the stage.
C'est un mécanisme pour moi qui conduit à une forme de suicide, non pas forcément violent, mais donc je pense pas que ça puisse être qu'une étape. Je pense qu'on... c'est une conduite.
Est-ce que le dandy a toujours une fin tragique, alors?
All the right ones, yeah. There should be, yeah, definitely.
You had to kiss the devil for the devil. He kisses all so well.
Well, I worry about Mr. White.
Je crois qu'il était quand même tellement fauché que le propriétaire de cet hôtel l'hébergeait gratuitement et c'était comme une forme de mécénat d'aider le grand écrivain irlandais à
Oscar Wilde
continuer d'avoir un toit parce qu'il était à la rue sinon et complètement démuni, hein. Démuni, malade. C'est terrible, hein. Mais je pense que dans le... C'est le cas aussi pour Brummel, qui finit en tôle, pour dette de jeu, je crois, enfin... Voilà, la dimension de déchéance finale est très importante dans, à mon avis, cette imagerie-là.
La chute, c'est qu'il dépasse les bornes de la société et il n'est plus accepté, mais jusqu'à un certain point... Il arrive à se faire accepter tout le temps en dépassant les bornes. Et il y a une ultime limite qui dépasse, et là, c'est la chute.
Je pense qu'à ce moment-là, c'est justement ce côté névrotique qui reprend le dessus, parce qu'il n'arrive plus à séduire les autres.
Est-ce que c'est pas possible aujourd'hui, justement, de s'arrêter avant ?
Est-ce que la société permet pas ça?
Mais comme elle le permettait avant également.
Vous pensez que ça change pas en fait? 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle?
Encore une fois, dans les codes, non, je pense pas. Les formes, oui, elles sont en perpétuelle évolution, elles se recréent tout le temps, mais les codes, non, je pense qu'ils restent les mêmes.
Disparition, apparition.
Dandy de 2050.
J'ai du mal à voir comment on peut projeter un dandy.
On peut faire un dandysme d'anticipation.
Ouais.
C'est vrai que le réchauffement de la planète, il sera en toge.
J'attends avec impatience le réalisateur qui osera faire un film d'anticipation sur le dandysme.
On parle assez peu des femmes d'ailleurs.
Il y avait Françoise Sagan, au moins dans les interviews.
Peut-être Françoise Sagan.
Qui, ouais. Qui joue un peu avec cette culture en tout cas.
Je crois qu'il faut évidemment, pour s'affirmer dandy, une indépendance, une souveraineté que la femme est loin d'avoir conquise au 19e et au 20e siècle. C'est ça le problème. C'est moins un problème de sexe que de situation au sein d'une certaine société.
C'est-à-dire que chez les femmes, en fait, le dandysme serait incroyablement viril.
Un dandy en 2050?
Probablement un androgyne.
Transgenre?
Transgenre, quand il est assumé et bien vécu, c'est quand même une forme assez utile de dandysme.
The dandy is a double sex thing.
Et un dandy extraterrestre?
C'est lui qui se casserait avec la vie pour recréer notre forme humaine, quelque part. Supérieur, évidemment. C'est celui de 2000 ans, l'Odyssée de l'espace, probablement. En fait.
Tu penses au fœtus?
Oui.
Le fœtus de 2000 ans, l'Odyssée de l'espace, dandy du futur.
Un dandy de 2050.
Voilà.
Wagner.
On l'a trouvé, ça y est.
Il y a quand même des lignes qui se dessinent, malgré tout. Hein.
Bien sûr.
Eh bien, merci, messieurs, pour votre collaboration précieuse.
Forse miei persi l'ingegno che la morte mi è venuta a visitare e leva le gambe tue da questo regno.
Pour tous les dandys télépathes aux heures précieuses, j'ai donc cherché les dandys, j'ai écouté des heures d'émission, j'ai lu des livres, j'ai vu des films, j'ai approché le mythe, j'ai mené mon enquête. J'étais Sherlock Holmes entre Londres et Paris, entre Byron et Pacadis, entre Brummel et Intel, entre Oscar Wilde et Jean-Jacques Schoul, entre Huxley et Gainsbourg. J'ai fait un saut à New York, j'ai même rêvé l'Italie dandy. Pour peu, je me serais perdue en Inde avec Gandhi dans la ville de Dandy ensanglantée. J'ai même été jusqu'à chanter Dandy, c'est dire si je suis allée loin. Ici ou ailleurs, on me citait des noms, on me citait des œuvres, on me donnait de vraies, de fausses raisons. Je suis toujours dans la fascination. Ces étranges êtres humains, comme disait le petit ami de Pacadis quelques mois avant sa mort, ces soleils couchants, comme professait Baudelaire, se sont levés glorieux face à moi. J'ai pris un cliché, une photo qui ne génèrera pas de sitôt. J'ai vu en Byron un chevalier fantôme triomphant de l'orage. J'ai accompagné Baudelaire sur les bords de mers sulfureux de sa vie antérieure. Je me suis fiancée au Frankenstein dandy de Jean-Jacques Schoul. J'ai écrit sur la main de Bruce Chatwin, dans une tour en Toscane. Je suis descendue aux enfers avec un T-Rex dandy cherchant son Eurydice. J'ai rudoyé les Kings comme Brummel avant l'exil. J'ai beaucoup ri avec Sébastien Horsley qui mesure la liberté des hommes à leur facilité à rire de tout. J'ai hurlé « Andy, a dandy » pointant d'interrogation l'obsession de Warhol pour le fric. Avec Gainsbourg, j'ai embrasé héroïquement mes derniers deniers à la face cachée du monde. Et puis, j'ai fait chanter de vrais faux dandys, bien vivants et prêts à tout pour survivre à la société de consommation. Et j'ai rêvé dandy comme d'autres ont rêvé New York. Je voudrais que jamais il ne déchoie ces dandys-là. Je n'ignore pas la fin tragique de certains d'entre eux. De cette mort, je ne retiens que l'essentiel, le mythe. Il ne faut pas se tromper, ce n'est pas la déchéance qui fait la supériorité. J'ai compris une chose, une seule. Être dandy, c'est avoir l'ultime élégance, ultime négligence d'être simplement soi-même. Avec une bonne dose d'esprit, d'humour et de distance. Une vraie lucidité, vous connaissez cela ? Soyons vraiment dandy pour voir, soyons-le une heure, un jour, un mois, ayons ce courage. Être simplement nous-mêmes, lucides et élégants, pleins d'esprit et de rébellion, proclamant l'agonie active de la douleur, organisons notre temps à le perdre, vraiment, sans jamais laisser les autres indifférents. Trouvons l'éclat dans l'orgueil éperdu des losers magnifiques que nous sommes tous, lucides et grands, sombrant à jamais, molécule après molécule, dans la déchéance et l'absurdité. Maintenant je sais, le dandysme n'existe pas, seuls les dandys, indomptables inventeurs, existent.
Mais j'attends déjà que revienne la nuit,
scellée dans l'espace.
La même nuit, s'il se peut.
C'était l'atelier de création radiophonique. Nébuleuse d'Andy, un essai radiophonique de Barbara Carlotti. Remerciements à Bertrand Burgala, Frédéric Becbédé, Tristan Francoze et Mishka Assayas, à Philippe Auclair, Simon Englisch, Franck Lamy et Serge Boson, à Cécile Paris, Vladimir Léon, Julie Desprairies, Jean-Claude Ribaud, Arnaud Catherine et Olivier Choudançon, à Sébastien Horsley et Monsieur Intel, les vrais dandys décadents à qui cet atelier est dédié. Remerciements également au cœur de Vrais Faux Dandys, Laurent Talon, Jean-Pierre Petit, Jérémy Régnier, Emmanuel Villain, et aux musiciens Jean-Pierre Petit, Bertrand Belin aux guitares, Benjamin Esdrafo au piano et J.P. Nataf aux percussions. Une performance de Barbara Carlotti sous le titre de Nébuleuse Dandy se tiendra le 16 mai prochain pendant la Nuit des Musées au MacVal, le musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Prise de son Gilles Gallinaro, Claude Niort, Sylvain D'Angoise, mixage Julien Douminc et Philippe Bredin. Une réalisation de Marie-Laure Ciboulet. Nouvelle apparition de l'atelier dimanche prochain avec Fausse piste, un essai radiophonique de Joris Lacoste. Vous pouvez réécouter et podcaster cette